أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيني إلى يوم القيامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، je vous rappelle que والله par Dieu je vous aime tous en Allah. Et Dieu est témoin que je veux pour moi, pour vous, le bien que je veux pour moi-même. فصلى الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت الطيب الكريم على طاعته أن يجمعنا في جنته مع سيد الخلق المصطفى إنه ولي ذلك ومولاه آمين. Aujourd'hui notre thème, pour pas faire trop de suspense, c'est un jour dans la vie d'ingénieur. Un jour dans la vie d'ingénieur. Dans à peu près 3 semaines, comme vous le savez tous, le Ramadan, ça y est, on y est dedans. À peu près 15 jours, 3 semaines. 15 jours. طيب. 2 semaines, peu importe, il nous reste presque rien du tout avant d'aborder le Ramadan. Et sachez que celui à qui il lui sera facilité de vivre jusqu'à ce mois-là, c'est qu'Allah l'a favorisé et l'a choisi. C'est un cadeau de Dieu de vivre jusqu'à ce mois-là. C'est une chance qu'Allah nous donne de vivre jusqu'au mois du Ramadan. Car c'est le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois où les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer fermées. Le mois où les démons, les diables sont enchaînés. Le mois où notre comportement se rapproche du comportement des anges. Tu vas me dire comment ça? Ben les anges, on sait qu'ils ne mangent pas et qu'ils ne boivent pas. Dans ce mois-là, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu ne désobéis pas à Dieu. En temps normal, tu ne désobéis pas. Tu es dans un cercle plus d'adoration qu'autre chose. Les anges sont dans ce cercle-là. Tu n'as pas de rapport avec ta femme, les anges, pareil, eux ils se marient pas, et ils sont loin de tout ça. On se rapproche de quelques qualités. Alaykoum salam wa rahmatoullah. De quelques qualités parmi les qualités des anges. On dit moins de mauvaises paroles, etc. Pendant ce mois, comme vous le savez, les mosquées sont pleines. Regardez aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui savent qu'il y a un dars dans la mosquée. Beaucoup. Tu vois? Et dans le Ramadan, subhanallah, c'est un autre effet. Le mois du Ramadan, tu vois, les mosquées, elles sont pleines. Tu ne peux pas trouver une place si tu ne viens pas une demi-heure avant Tarawih. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Et tout, tu vois dans ce mois-là aussi que les gens sont à la mosquée, matin, midi et soir, en train de lire du Coran. Dans tous les transports en commun, tu vois les gens, ils ont le mushaf, ils ont le Coran. Ils sont en train de lire, réviser, apprendre. Ils ne perdent pas leur temps, ils essaient de profiter, d'avoir beaucoup de hasanat. Dans ce mois béni-là, il y a aussi une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Laylatul Qadr. Les gens, comme je vous ai dit, ils sont là tout le mois du Ramadan, cette nuit-là, ils disent que c'est le 27, mais ce n'est pas le 27, on aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah. C'est une nuit impair dans les 10 derniers jours. Ces gens-là, tu les vois, ce mois-là, ils sont très assidus, très attachés à la mosquée. Et dès que le mois du Ramadan, il disparaît, « Illa man rahim Allah, wa asal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al marhumin. » Amen. Donc notre thème aujourd'hui peut vous sembler un petit peu bizarre. Comment ça, un jour dans la vie d'un jeûneur? On sait comment ça se passe quand on jeûne. C'est simple. J'ai l'intention de jeûner, je mange pas, je bois pas, je dis pas de mauvaises paroles, je fais la prière, khalas, c'est terminé, qu'est-ce que je fasse de plus? Eh bien, on va te donner beaucoup plus, Inch'Allah, pour que la motivation, elle soit forte. Tu vois, quand on te dit, fais beaucoup, 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 Déjà, on te lève la motivation. Et si tu n'es pas capable de faire ce beaucoup, tu vas faire le maximum que tu peux. Mais si je te dis, fais juste 5 prières, crois-moi, tu vas arriver au mois du Ramadan, tu ne vas pas faire grand-chose. Même les 5 prières, ça se peut que tu lâches. On les voit, les gens. 10 premiers jours de Ramadan, ils sont lancés, mashallah, dans les adorations. Et après, disparition totale. Pas de la mosquée, mais de toute sa religion. Pourquoi? On a, hélas, des gens qui adorent le Ramadan. Qui adorent le Ramadan. Où ils pensent que Allah, c'est le mois, c'est ce qui lui appartient comme moi, c'est le mois du Ramadan. Et les 11 autres, non. Ça ne lui appartient pas. Je ne dois pas l'adorer ni l'écouter. C'est que dans ce mois-là. Même la personne qui sort avec les filles, tout ça, tu lui dis, pourquoi tu sors pas avec une fille? Dans la journée, tu galères. Ah non, c'est le Ramadan, mon frère, faut respecter. Je comprends pas. Faut respecter Allah ou le Ramadan? Donc on a besoin de revoir un petit peu ces choses-là pour qu'Allah nous facilite dans ce mois-là. Donc, un jour dans la vie d'ingénieur, beaucoup de gens se posent cette question. Mais que faire pendant le mois du Ramadan? Donne-nous un petit peu des devoirs. Dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire. Comment prendre 24 heures et les désosser, les mettre en miettes et en adoration. Comment faire? C'est pas difficile. Je veux que tu me prêtes ton oreille et que tu, dès maintenant, pendant que tu es en train de m'écouter, tu prépares une intention de faire, inshallah, tout ce que je vais dire. Dès maintenant, essaye de faire tout ce que tu vas entendre, inshallah. Comment passer mon temps pendant le mois du Ramadan? Ça, c'est donc la question principale. D'où le titre, un jour dans la vie d'ingénieur. Comment faire en sorte qu'Allah soit satisfait de moi pendant ce mois? Comment faire en sorte pour que je sente vraiment que ce mois-là, il n'est pas comme l'année dernière? Il est mieux. J'ai fait un pas en avant. Le jour pendant le mois du Ramadan, il commence quand? En règle générale, le musulman, sa journée, elle commence à Fajr. Elle se termine à Maghrib. Lever du soleil, coucher du soleil. Tu te réveilles le matin. Bien sûr, avant le Fajr, il y a une sunna que vous connaissez tous. Ça, c'est le premier jour du Ramadan. Qu'est-ce qu'on fait le premier jour du Ramadan? Je me suis réveillé avant le Fajr. Barakallahu fik, suhur. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dessus? Il dit, tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Prenez le repas de fin de nuit, car c'est un repas béni. Prenez le repas de fin de nuit, car c'est un repas béni. On a suhur. Ce repas de fin de nuit, il est quand exactement avant le Fajr? À peu près une durée de combien de temps? Et bien dans un hadith que rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, rahimahumullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait son suhur d'une durée de 50 versets avant le Fajr. 50 versets avant le Fajr. Ça veut dire, 50 versets, les savants ils ont divergé. Ça se lit en combien de temps? Il y en a, ils ont dit une demi-heure, une heure, on va dire environ une heure. Tu te lèves donc à peu près environ une heure avant le Fajr. D'accord? Ou une demi-heure si tu veux. Sinon on est en train de faire vivre une sunna du prophète sallam. D'accord? Mais attention, une chose importante. Avant de se lever pour suhur, qu'est-ce que je dois préparer? Avant de se réveiller pour suhur, pour le Fajr, il y a une chose à préparer très importante. Sans elle, mon jeûne, il n'est pas valide. L'intention, barakallahu fik. Deux piliers dans le mois de jeûne. Le premier, c'est ne pas manger, ne pas boire, et ne pas commettre de rapport avec sa femme. Le deuxième, c'est l'intention. L'intention, ikhwani fillah. Il y a des savants, après, ils ont divergé. Ils ont dit l'intention, c'est simple. T'en prépares une avant d'aborder le mois, et cette niya-là, eh ben, elle te suit tout le mois. D'autres savants, ils ont dit non. L'intention, il faut qu'elle soit renouvelée chaque nuit. Et l'avis le plus fort, c'est qu'elle doit être renouvelée chaque nuit. Tu renouveles l'intention de te réveiller le lendemain pour jeûner. C'est une condition chez la majorité des savants, parmi eux, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Rahimallahu al-jami'a. Et bien sûr, ils ont une preuve. Ça ne vient pas du vent. An Hafsa, radiyallahu anha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Quiconque ne prépare pas l'intention avant le Fajr, point de jeûne pour lui. Le hadith il est rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Tirmidhi. Et dans une autre version de l'imam Ahmed, le prophète sallam dit من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قبل طلوع الفجر, avant Le lever, avant l'aube, il faut que tu aies l'intention de jeûner. Ça veut dire, je donne un exemple rapide. L'intention, mais tu vas me dire, mais comment l'intention? Tu m'as dit que c'est une chose qui est du cœur, pas de la langue. Comment donc la préparer? C'est simple. Le fait de préparer ton réveil pour se réveiller, pour le sahur, c'est une intention. Fait de dire, excuse-moi, tu n'oublieras pas de me réveiller demain parce que j'ai peur de ne pas me réveiller. Maman, n'oublie pas de me réveiller. Ça y est, c'est une intention. Mais de dire, nawaitu siyam ghadan, ça, c'est pas une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Il n'a jamais prononcé l'intention car elle est dans le cœur. D'accord? Donc, tu prépares cette intention. Une personne qui vient, elle dit, demain, c'est quoi, Karim, demain je ne jeûne pas. Tu dis, mais attends, c'est le mois du ramadan, c'est obligatoire, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne jeûne pas. Et après, le lendemain, il se réveille à 5h de l'après-midi. Il reste, pour le maghreb, 2h. Il dit, allez, finalement, vas-y, je jeûne, il reste que 2h. Son jeûne, il a accepté. Pourquoi? L'intention, il faut qu'elle soit préparée avant le fajr, avant l'aube. C'est compris? Avant l'aube. Tu ne peux pas la préparer au milieu de la journée. Point de jeûne pour lui. Très important. Taïf. C'est pas grave, tu as raté une sunna, mais tu l'avais préparée, cette intention. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème, Akhil Karim. Tu t'es pas réveillé pour le suhur. Par exemple, je sais pas moi, tu as dormi trop tard et tu n'as pas réussi à te réveiller. Tu avais l'intention de te réveiller ou pas? Khalas, les actes ne valent que par les intentions. C'est un hadith, apprenez-le par cœur, les frères. Il est facile et il résout beaucoup de problèmes. D'accord? قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى أن الجهر بالنية من البدع السيئة وهذا متفق عليه بين المسلمين لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدع حسنة فمن قال ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم فالنية محلها القلب الإمام ابن تيمية رحمه الله يدي que, en deux mots, l'intention, elle est dans le cœur et pas dans la langue. On ne la formule pas par aucune parole. D'accord? Tu ne dis pas « j'ai l'intention de faire ça, j'ai l'intention de faire ça ». Tu ne dis rien. Allah Ta'ala sait que tu vas faire ça et ça demain ou après-demain. Tu n'as pas besoin de lui dire. Il sait tout. « Huwa al-alim, subhanahu wa ta'ala ». Donc, avant de dormir, l'intention, puis après, tu te réveilles. Là, on n'aborde pas le sahur. On aborde d'abord quelques petites sunnahs délaissées. Donc, dès que tu te réveilles, il ne faut pas que tu sois insouciant envers les doigts. Dès que je me réveille, la première chose, je fais quoi? Taïb, dites-moi les frères. Barakallahu fi. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ahyana, ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Vous ne le connaissez pas? À apprendre par cœur. Par cœur. Vous n'avez pas le livre? Je vous l'ai ramené, je vais vous le distribuer après. D'accord? Il n'y a pas d'excuse. Vous ne l'avez pas, Inch'Allah, vous allez l'apprendre. D'accord? Et même pour les sœurs en haut, il y a le livre si vous ne l'avez pas. Et vous le connaissez tous, Hasan al-Muslim, qui n'a pas la citadelle du musulman chez lui. Donc, première chose, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a rendus à la vie, après nous avoir fait mourir, et tout retourne à lui. Tu commences ta première parole, c'est pas... t'as préparé à manger? Non. D'abord le dua. D'accord? Le dua. Taïb. Ensuite, est-ce que c'est terminé? Non. Il y a une autre riwaya dans Sahih al-Bukhari. Si tu ne peux pas dire ça, tu veux dire plus, il n'y a pas de problème, mon frère. Tu dis, comme le rapporte Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ta'ara min al-layl, faqala hina yastayqir, la ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله و لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي c'est difficile deux lignes tu les apprends par cœur tu les dis le matin qu'est-ce qui se passe غفر له Allah te pardonne tous tes péchés dès le matin. Tu te lèves propre, nickel. قال الوليد رضي الله عنه أو قال دعا استجيب له. Il a invoqué et il a été exaucé. Il a demandé le pardon, ça y est, ça a été pardonné. Le dua en français, il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique sans associé.
À lui la royauté et à lui la louange et il est capable de toutes choses. Gloire et pureté à Allah. La louange est à Allah. Il n'y a pas de puissance, il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah le Très Haut, le Plus Grand. Ô Seigneur, pardonne-moi. Et il lui sera dit, tu es pardonné. Après le dua, deuxièmement, donc là on est, c'est le matin. Hein. Après le dua, qu'est-ce que je fais? Ben c'est simple, je vais aller faire le wudu, les ablutions. Mais avant le wudu, je peux avoir besoin de rentrer, faire mes besoins. Taï. Avant de rentrer, faire tes besoins, il y a des règles, mon frère. Le prophète Hassan, il nous les a appris. Il nous a tout appris, le prophète, comme il a été questionné, Salman al-Farisi, radiallahu anhu, il a dit, ton prophète vous a tout appris, et il lui a dit tout, même comment faire nos besoins. Allahu Akbar, tout, taïf. Il y a des règles de politesse? Oui, je rentre avec le pied gauche. Je dis bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. D'accord? Je cherche refuge auprès de toi, ya Allah, contre les djinns, mâles et femelles. D'accord? Tu rentres avec le pied gauche. Dans les toilettes, tu n'as pas le droit de parler. Il est interdit. Dans un hadith rapporté par les mêmes musulmans, le prophète sallam est rentré faire ses besoins. Un homme est passé, il lui a dit « Assalamu alaikum ». Il n'a pas répondu. Alors que Rabb al-Salam, il est fard kifaya. Tu dois répondre le salam. Il lui a dit « Assalamu alaikum ». Il n'a pas répondu. La troisième, assalamu alaikum, il n'a pas répondu. Le prophète s'en est sorti des toilettes, il lui a dit, wa alaikum assalam wa rahmatullah, wa alaikum assalam wa rahmatullah, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Comme Rabb al-Salam, c'est une obligation et qu'il ne l'a pas répondu, donc toutes les paroles qui sont en dessous de cette obligation-là, logiquement, on ne va pas les dire. D'accord? Ta mère, elle t'appelle, tu es en train de faire tes besoins. Frappe à la porte, essaie d'avoir un petit signal pour qu'elle comprenne, il ne faut pas que je parle dedans. Maman, attends 2 minutes, j'ai bientôt fini. Ça, non. Je ne veux pas entendre tout ça. D'accord? Répondre le salam? Non? Pas du tout. Mais, non. C'est pas une condition. C'est pas une condition. Tu réponds le salam, il n'y a pas de problème. D'accord? En état d'important, en état de janaba, il n'y a pas de problème. Tu réponds le salam. D'accord? Répondre le salam, c'est un fard kifaya. Si une minorité, 2 ou 3 personnes le font, c'est plus obligatoire pour tout le reste des gens qui sont dans cet endroit-là. Et si personne ne répond, tout le monde a un péché. Et le fait de répondre le salam, c'est une sunnah. D'accord? Taïb, on reprend. Je suis rentré, je ne parle pas. Je dis rien du tout. Taïb, est-ce que je peux faire du zikr? Non, mon frère, elle t'a dit non. Pas de zikr. Bah, comment je vais faire alors? Je perds mon temps aux toilettes? Tu fais rien. Tu fais comme le prophète en salam. Parmi aussi les règles de politesse, c'est que tu ne touches pas tes organes avec la main droite. Ni tu ne te nettoies avec la main droite. Tout se fait avec la gauche. D'accord? Là, je parle pour frères et sœurs. Hein. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas, ah oui, mais nous, non, oui, nous, oui. Hein, pour tout le monde. J'ai fini mes besoins. Je sors avec le pied droit et je dis, Rufranak. Barakallahu fikum. Donc ça, c'est les règles de politesse. Oh. Inch'Allah, on va parler de tout ça après et le mieux c'est que les questions on les laisse pour la fin. D'accord? Parce que wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. Donc j'ai dit, tu es sorti, tu vas vers les toilettes, la salle de bain, les ablutions. Que tu aies fait tes besoins avant ou pas, tu laves tes mains avant de faire les ablutions. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, c'est une sunnah délaissée. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث اللي رابورتي بار الإمام البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يداه قبل أن يدخلها في وضوئه أي في ماء الوضوء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, dès que tu te réveilles, tu te laves les mains avant de faire n'importe quoi. D'accord? Car, c'est quoi la raison? Tu ne sais pas où a dormi ta main cette nuit-là. Tu peux avoir touché des impuretés ou des microbes, des choses comme ça. L'islam, c'est la religion de propreté. Et même dans un hadith, il est dit « At-tuhur shatrul iman ». La purification, c'est la moitié de la foi. Subhanallah. On doit être, normalement, les gens les plus propres dans nos vies, dans nos corps, dans nos mosquées, partout. Et là, si tu rentres, tu prosternes derrière quelqu'un, tu sens ses chaussettes, Il t'envoie sur Neptune, c'est vrai ou pas? Hein? Chaussette trouée, elle dégage du gaz, du pétrole. Ça, c'est pas bon. Hein? Un musulman, il rentre à la mosquée, il doit s'habiller bien, propre. Sauf bien sûr les cas exceptions, t'es dans le boulot, tout ça. On va pas dire ne prie pas à la mosquée pour venir propre. Prie à la mosquée, pas de problème. Mais essaye quand même l'odeur. L'odeur, ça nuit, wallahi, ça nuit. Le prophète Sami l'a dit, dans Sahih Muslim, il a dit فَإِنَّ الْمَلَائِكَ تَتَأَذَّ مِمَّا يَتَأَذَّ مِنْهُ بَنُوا آدَمَ وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. Les anges sont nuits, se nuisent de ce que nuit les enfants d'Adam. Donc je rentre à la mosquée, propre. Hein? Je m'embellis quand je vais, par exemple, je sais pas moi, voir de la famille ou des amis, quelque chose. J'essaie de m'habiller bien. Bah, quand tu vas voir Allah Azzawajal dans sa mosquée, dans sa maison, tu t'habilles de la meilleure manière possible. D'accord? Tu te parfumes, tu te fais beau, tout ça. L'imam Malik, subhanallah, l'imam Malik, avant de citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait quoi? On l'a vu ça ensemble. Il faisait ses ablutions. Après, il se coiffait. Il se coiffait la barbe. Il se parfumait. Hmm? Et il commençait à dire qala Rasulullah sallallahu alayhi wa. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit c'est de cette manière que je respecte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même l'imam al-Bukhari, avant de dire un hadith, il faisait ses ablutions. Vous imaginez un petit peu? Nous aujourd'hui, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ablution ou pas, on la respecte plus. On la respecte plus. La sœur, on lui dit ya urti, ittaqillah, le ramadan il arrive. Commence dès maintenant à faire ça. Regarde le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais ça c'est le prophète. Taïb, les compagnons. Ouais, mais c'est les compagnons. Tu veux que je te donne qui comme exemple? Si c'est pas eux, nos références et nos sources, je vais les demander, je vais te dire qui. Subhanallah, c'est incroyable quand même. Hmm? Donc, je me lave les mains. Après, je fais mes ablutions. Taïb, j'ai fait mes ablutions. Qu'est-ce que je fais après les ablutions? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu muhammadan rasulullah, Allahumma ja'alni min at-tawabin, waj'alni min al-mutatahhirin. Allah, comment dire, fais en sorte que je sois parmi les gens qui se purifient et parmi les gens qui se repentent. Dua. D'accord? J'ai fait mes ablutions. Après les ablutions, directement, je fais deux rak'at. Car selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous s'endort, le diable, il fait trois nœuds derrière sa tête. Trois nœuds. Hein? En disant sur chacun d'eux, que ta nuit soit longue. Dors. Dors. Éclate-toi. Hein? Dors beaucoup. Ne te réveille jamais. Dors. Et si tu te réveilles, redors. Hein? C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Dors. Que ta nuit soit longue. Dors. Alors, s'il se réveille entre-temps et évoque Dieu exalté en disant le dua, comme ça, on va le casser. Dès qu'il dit le dua, eh ben, l'un de ses nœuds se délie. Il dit Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Hop, il en détache un nœud. Shaitan. S'il fait ses ablutions, le deuxième nœud se délie. Et puis, s'il prie deux rak'at, les trois nœuds se délient tous. Ainsi, il se réveille plein d'énergie. Hein? Lanchit. Hein? Actif, vif. Sinon, eh ben, il est plein de paresse. وَلَعَيَذُ بِاللَّهُ وَنَسْأَلُ اللَّهُ السَّلَامَ. Enfin, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari muslim. Une personne peut me dire une chose, une question qui peut venir à l'idée. Tu me dis que le shaitan, quand je dors, il attache trois nœuds. Comment? Ils sont où ces nœuds? Je bouge toute la nuit, je ne me sens pas attaché. C'est vrai ou pas? Tu me dis que si je ne dis pas bismillah, le shaitan il mange avec moi. Et si je dis bismillah wa akhiru, il vomit. J'ai jamais vu de vomir dans ma cuisine. Tu me dis, si je dors et je ne me réveille pas pour le souffle, Shaitan il urine dans mes oreilles. Excuse-moi, je ne vois pas que mes oreilles c'est des toilettes le matin. Je vois que mes oreilles sont propres, j'ai pas de problème. Comment comprendre tout ça? C'est des choses qui font partie de l'oreille, du monde de l'invisible, dont on doit y croire. Pourquoi? Parce que c'est Sadiq al-Masduq, alladhi la yantaqa 'an al-hawa, qui l'a dit. C'est le prophète sallam le véridique qui l'a dit, on y croit. Ça fait partie des choses du monde de l'invisible. Il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à, dont on dit une croix, hein, et ils font partie du monde de la vie. Par exemple, l'âme. Vous avez tous une âme ou pas? Elle est où? Prouve-moi qu'elle est dans ton corps. Ramène-moi un scientifique qui me dit ton âme là, elle fait quelle taille, quelle couleur, hein, que je comprenne. Non. Allah il dit yas'alunaka 'an ar-ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Il te questionne au sujet de l'âme. Allah il répond dis-leur que l'âme fait partie de l'affaire de ton Seigneur. C'est Allah Ta'ala qui connaît. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez eu que peu de science. Qu'est-ce que tu questionnes sur des choses qui font partie de la science d'Allah? On est des ignorants, les frères. Quoi que t'apprennes, tu n'as rien. Quoi que t'avances dans la religion et dans les sciences du bas monde, tu es toujours rien à côté de la science d'Allah Azza wa Jal. Et si tu veux un détail, le hadith de Bukhari Muslim, le prophète alayhi salam, il s'est retrouvé avec le prophète Moussa alayhi salam, il s'est retrouvé un jour avec Al-Khadr alayhi salam, qui est, chez l'avis de la majorité des savants, un prophète. Un prophète. Et celui qui veut vérifier ça, il retourne dans les livres de Aqidah, il va le vérifier lui-même. Donc, Al-Khadr et Moussa, ils étaient ensemble. Ils ont fait le long voyage que vous connaissez dans Surat Al-Kahf. Hein, il a tué le petit, il a percé le bateau, etc. Dans ce voyage-là, ils ont vu un oiseau boire de l'océan. Et Al-Khadr, il s'est retourné vers Moussa, al-Hadith, il est fait Sahihain. Dans les deux recueils authentiques, de Bukhari et Muslim, Al-Khadr s'est retourné devant Moussa, alayhi salam, et il lui a dit, ma science est ta science. Envers la science d'Allah, n'est que comme ce que vient de boire cet oiseau de cet océan. Qu'est-ce qu'il a bu un oiseau d'un océan? Rien! Rien! C'est vrai ou pas? Un oiseau, il boit de l'océan, mais qu'est-ce qu'il va boire? Absolument rien! Pareil, notre science, c'est rien comparé à la science divine. Taïf, on reprend. On a dit donc, je me réveille. Avant de me réveiller, je prépare l'intention. Deuxième chose, je dis le doa. Troisième chose, les règles de politesse de mes besoins, si je vais aux toilettes. Après, je lave mes mains avant les ablutions, je fais mes ablutions doa de rak'at. Taïf. Ensuite, as-suhur, le repas de fin de nuit. C'est une sunnah du prophète sallam. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabi sallam aqal tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Prenez le repas de fin de nuit, il est toute bénédiction. Il a plusieurs intérêts à prendre ce repas. Plusieurs avantages de le prendre. Un, faire la sunnah du prophète sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah il fait parler le prophète en salam, il dit si vous m'aimez vraiment, vous aimez tous le prophète en salam ou pas? Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il a dit que ce verset là c'est le verset qui tranche vraiment dans l'amour des gens vers le prophète en salam. T'aimes le prophète en salam? C'est ce verset qui va le prouver. Si tu aimes vraiment le prophète en salam, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, suivez-moi donc. Ainsi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Comment tu peux dire que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le suis dans rien du tout? Comment tu peux dire que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne te rappelles jamais de lui? Tu rentres dans la voiture, tu ne dis pas de dua. Tu rentres à la maison, tu ne fais pas de dua. Tu rentres à la mosquée, tu ne fais pas tahiyat al-masjid. Tu rentres, tu ne fais pas tes ablutions. Tu ne fais pas la salat. Tu ne fais pas de dhikr. Tu ne lis pas le Coran. Tu ne fais rien du tout. Comment tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'amour a besoin de preuves. Un homme, il dit à sa femme, je t'aime. Est-ce qu'elle va l'avaler facilement? Faut des preuves ou pas? Dalil, elle va lui dire. Apporte le Dalil. C'est où? C'est vrai ou pas? Il va lui dire Dalil, tout de suite. Cadeau, machin, parfum, soirée, tout ta ta ta. Bien sûr, quand je dis soirée, c'est dans des endroits halal. Hein. Faut pas croire pub, boîte de nuit, bar, des trucs comme ça. Hein. Les musulmans, ils vont pas dans ces endroits-là. Et il lui prouve par une, deux, trois, quatre choses. Elle a, certitude qu'il l'aime. Le prophète, ça l'aime. Tu dois prouver que tu l'aimes par tes actes. Par tes actes. Il y a beaucoup de temps où tu galères. Dans ta journée, il y a trop de temps libre. Est-ce que ce temps-là, tu es tout le temps en zikr? Est-ce que ta langue, elle s'arrête dans la journée ou elle est active toute la journée? Tu es en train d'encaisser des hasanat. Le compteur, il travaille. Hein? Ou le compteur, non. Il bloque jusqu'à la salate. Je prie. Après la salate, c'est fini. Alaykoum salam wa barakatuh. Donc, un, faire la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alaykoum bi sunnati. Suivez, accrochez-vous, attachez-vous à cette sunnah. Et il a dit, je vous ai laissé sur un chemin clair, de nuit comme jour. Ne s'en égare que celui qui veut vraiment s'égarer. Ce chemin-là, c'est quoi? Le livre d'Allah et la sunnah du prophète. Mais on a dit, la sunnah du prophète, c'est son chemin. Son chemin, suivre ses paroles, ses actes, hein, et ses approbations. Taï, deuxième chose, faire le fajr en son temps. Et en jama'a, car le vrai croyant, il ne prend pas son repas en une heure. Il ne prend pas son repas en une heure et directement après il dort. Non. Avant de dormir, tu vas prier le fajr. D'accord? Troisième chose, c'est que tu as plus de force dans la journée. N'oubliez pas qu'en mangeant, subhanallah, tu te recharges pour la journée. La personne qui ne prend pas ce repas-là et la personne qui le prend, en règle générale, on voit une différence. Hein? Tu tiens le coup jusqu'à 4-5 heures, ça dépend, il y en a, ils ont des moteurs qui pompent plus d'essence à partir de midi, les KO. Mais en règle générale, tu tiens, c'est vrai ou pas? Surtout quand tu manges, tu vois, les trucs, comme ils disent. Hein? Tu viens le matin, pour les Égyptiens c'est full, hein? Pour les Marocains c'est harira, couscous, pain, tout ça. Et le mohem, tu te charges bien comme il faut, dans la journée c'est bien. D'accord? Ne pas oublier aussi quand tu vas manger, les règles de politesse du manger. Quelles sont ces règles-là? Awalan, dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari, le hadith, il est selon Amr ibn Abi Salama, qui était un petit enfant. Cet enfant, il est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute, imagine bien. Il est venu, il n'a pas dit bismillah. Et il mange de la gauche, et il mange de partout. Là, 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 la viande, hop, 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 hop. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ya ghulam, sammillah, dis bismillah. Wa kul biyaminik, et mange de ta main droite, wa kul mimma yalik, et mange de ce qui est devant toi. Ça, ça fait partie des règles de politesse. Tu manges pas ce qui est devant la personne. Imagine, lui, il la regarde depuis tout à l'heure, et il veut la manger, et toi, tu le prives de ça. Hein? Il y a des règles de politesse, les frères. Wallahi, on les a perdues, ces règles-là. On les a vraiment perdues. Taïf, une question, un truc important. Sammillah, il a dit, Sammillah, c'est-à-dire, dis bismillah. Hein? Est-ce que j'ai le droit de dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Non, parce qu'il a dit Sammillah, il n'a pas dit Sammillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord? Donc je dis Bismillah. Quand est-ce que je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Quand je lis le Coran. Sinon, quand j'égorge une bête, Bismillah. Je fais mes ablutions, Bismillah. Je rentre à la maison, Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, entièrement, tu ne le dis pas que quand tu lis le Coran. C'est bien compris? T'en as même avant de manger? A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Wesh mon frère, tu vas lire un juz ou quoi? Hein? Non mon frère. Apprenez la sunna du prophète sans seul et mes frères. Et t'en as même après roté, ils disent Alhamdulillah, ils disent que c'est une sunna, c'est wajib. Non, bien sûr roté, c'est une chose à éviter. Le prophète dans sunna de Tirmidhi, il avait un homme roté, il lui a dit Kuffa anna shuja'ak. Hein? Cesse de faire ces rôles-là. Cesse. Ça ne fait pas partie des bons comportements. D'accord? Donc si tu veux le faire, essaye de mettre ton silencieux. Tu te mets en mode silencieux, tu ne fais pas sortir des bruits de sauvages. Hein? Donc bismillah. Pas bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est bien compris? Taïf. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sunna? Je mange, un morceau de pain il tombe par terre. Ah tiens chérie, mets-le à la poubelle. C'est ça que je dois faire? Tiens maman, mets ça à la poubelle. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle nous dit le sunna du prophète Hassan? Tu le prends, tu le nettoies. D'accord? Parmi les sunna aussi délaissés pendant qu'on mange, c'est l'interdiction de souffler et de respirer dans un récipient. Pourquoi? Tu souffles, tu peux faire tomber des microbes, respirer pareil. T'as vu jusqu'à où ça va la propreté de l'islam? Hein? Donc, tu respires pas dans le récipient et tu ne souffles pas dans le récipient. D'accord? Parmi les bonnes règles et les bons comportements aussi de l'islam, c'est que tu ne critiques pas la nourriture si elle est mauvaise. Ta femme, elle sait pas régler le sel. Ou ta maman. Elle met tout le temps beaucoup de sel ou elle en met jamais. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas nous faire un jour un repas en règle? Le prophète, ça ne faisait pas partie de sa sunna. Quand il aimait la nourriture, il la mangeait. Quand il ne l'aimait pas, il ne disait rien. Il ne disait rien. D'accord? J'ai fini de manger. Qu'est-ce que je fais? Avant de finir de manger, j'ai oublié de dire Bismillah. Qu'est-ce que je dis? Bismillah, awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah, au début et à la fin. D'accord? J'ai fini de manger, bien sûr. Alhamdulillah alladhi at'amana. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين أو الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. Il y a plein de doigts qui sont dans les livres que vous avez peut-être pas. D'accord? Je les ai ramenés, les livres des doigts, comme ça vous les apprenez tous par cœur. Donc très important de faire ce suhoor. Et est-ce que je le fais tout seul? Non, je réveille ma famille. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réveille ma famille. Pourquoi? Parce que c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il m'a dit, ya ayyuhal ladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui croyez, sauvez-vous vous, ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Donc, moi qui veux faire la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir des hasanat, ça je le veux aussi pour ma famille. D'accord? Je réveille ma famille. Al-Rabi'a bint Mu'awwid, kanat tu'awwid al-sibya ala al-sawm. هي وكل الصحابيات. وقت الصحور pendant ce temps-là, les femmes des compagnons, toutes, ils apprenaient à leurs enfants à se réveiller à ce moment-là. Ils les habituaient à se réveiller à ce moment-là. Et tu dois entraîner l'enfant au jeûne. Tu regardes un peu sa capacité, tu l'entraînes. Comme de 7 à 10, c'est un petit peu l'entraînement pour la salat. Tu dois lui imposer la prière à 7 et à 10. La asa liman asa. Le coup de bâton s'il ne veut pas écouter. Pas le sabre, un bâton. Pas lui couper la tête. Et deuxième chose aussi très importante, c'est l'enfant, je l'entraîne à jeûner. Je vois ce qu'il peut jeûner. Il peut jeûner 2 jours par semaine, il jeûne. 3 jours, il jeûne. Je l'encourage et je le motive et je le montre que c'est une bonne récompense. Et je le fais aimer ce mois-là. Pas il rentre dans ce mois-là, oh purée, punition qu'il va me faire, mon père va me faire jeûner 4 jours dans la semaine. Non, il faut qu'il rentre avec amour. Et pour le faire aimer ça, il faut que tu le montres. Tu fais ça, t'as ça. Tu fais ça, t'as ça. Tu fais ça, t'as ça. L'être humain, hélas, il est devenu trop, tu vois, donnant matériel. Là, alhamdoulilah, cette tijara, elle est avec Allah Azza wa Jal. Ces transactions, elles se font avec qui? Allah. Et Allah, c'est le plus généreux des généreux. Donc, sache que tu ne seras ni perdant, toi, ni ta famille. Après suhur, t'as mangé. D'accord? T'as mangé normal, tu vois, c'est-à-dire, tu peux encore bouger. C'est pas que t'as mangé, tu t'es collé de la glu sur la chaise, tu peux plus bouger. T'as mangé, tu peux encore bouger, alhamdoulilah. Il te reste, on va dire, 15-20 minutes avant Salat al-Fajr. Jusqu'à Fajr, ça c'est un moment qu'on appelle Waqt al-Sahar. Waqt al-Sahar. C'est un temps où tu dois faire vivre une sunnah. Quelle est cette sunnah? Ben, c'est l'istighfar. Al-istighfar. La demande de pardon. Yaqul Allah Azza wa Jal, wal-mustaghfirina bil-ashar. Wa yaqul, subhanahu wa ta'ala, wa bil-ashari. Et au dernier temps de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Donc, avant le Fajr, c'est une sunna de faire l'istighfar. Astaghfirullah, 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 jusqu'à presque avant le Fajr. D'accord? Ensuite, tu sors de chez toi. T'oublie pas en sortant de chez toi pour aller à la mosquée pour le Fajr. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. وَلَا حَوَلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, il n'y a de force et de puissance que par Allah, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Dans ta route, en allant à la mosquée, dua. Il y a un dua à dire. Et après ce dua, tu vas faire beaucoup de dhikr. Alors quel est ce dua? اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا ومن امامي نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا اللهم اجعلني نورا d'accord اللهم اعطيني نورا. Le hadith est rapporté par Muslim. En fait, dans ce hadith, tu dis: Allah, mets dans mon cœur de la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la lumière de la guidée, la lumière de l'iman, la foi. Et dans mes yeux, tu mets une lumière. Et dans mes oreilles, et devant moi, et derrière moi, et en dessous de moi. Allah, accorde-moi, procure-moi de la lumière. Tu as fait ce dua sur la route. Est-ce que c'est terminé? Non. Si tu es avec une personne ou tu es tout seul, zikr, ta langue, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Je suis là, je suis en train de faire travailler ma machine. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tu dis kalimatan, khafifatan, c'est quoi? Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Hamdi, Subhanallah al-Azim. T'oublie pas, toute la route, t'es en zikr. Jusqu'à ce que tu arrives à la mosquée. Sur ta route, t'oublieras pas aussi, avant d'arriver à la mosquée, de rentrer avec quel pied? Le pied droit. Qu'est-ce que je dis? Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Le hadith est rapporté par Muslim. Tu rentres, ô Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. D'accord? Tu es rentré. Une fois rentré dans la mosquée, tu fais 2 rak'at. Qui sont quoi? Tahiyat al-Masjid. Les 2 rak'at de salutation de la mosquée. Tu as fini? Tahiyat al-Masjid, tu l'as fini. Puis après, tu fais du zikr. Ensuite, entre-temps, tu as l'adhan qui arrive. Je suis arrivé au adhan. Je répète après l'imam, le muezzin. Je répète tout ce qu'il dit, sauf Hayya ala salah, Hayya ala falah. Qu'est-ce que je vais dire? La hawla wa la quwwata illa billah. Et le prophète sallam il dit, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, quiconque répète après le muezzin exactement comme lui, jusqu'à la fin et après il fait le doigt. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salat al-qa'imah wa 'alaykum as-salam wa barakatuh. Ati Muhammad al-wasila wal-fadila wa ba'athahum Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, c'est une riwaya da'ifa. Nous on se contente juste de alladhi wa'adtah. Jusqu'à là on s'arrête. Alladhi wa'adtah, qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallam dit mon intercession lui sera accordée. Le prophète sallam intercède en ta faveur le jour du jugement. Juste pour avoir répété ça et avoir dit ce dua. Taïf. Ensuite, après l'adhan, qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais deux rak'at de sunnah. Sunnah al-fajr. C'est quoi qui est obligatoire? C'est le fajr ou le subh qu'on fait avec l'imam? Écoutez bien. Le fajr et le subh, il faut les distinguer. Le fajr, c'est la sunnah que tu fais tout seul avant l'imam. Et le subh, c'est ce que tu pries avec l'imam. D'accord? Ça, c'est pour que tu comprennes bien cette chose. D'accord? Ensuite, le prophète, il dit, sur le fajr, qui a une très très grande récompense, raka'atay al-fajr, alaykum salam wa barakatuh, khayr min ad-dunya wa ma fiha. Les deux raka'at que tu accomplis pour le fajr valent mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. D'accord? J'ai fait mes deux raka'at, mais il y a encore du temps avant l'iqama. C'est quoi l'iqama? Quand il se relève le muezzin, il dit « Qad qamat salat ». Il fait comme l'adhan, mais il dit « Qad qamat salat ». T'as bien encore du temps, qu'est-ce qui se passe? Dua. Ad-dua la yurad bayna l'adhan wa l'iqama. Entre l'adhan et l'iqama, je fais des dua. Je fais des dua. Les portes du ciel, elles sont ouvertes. Allez hop, j'envoie mes invocations. D'accord? Ad-dua la yurad bayna l'adhan wa l'iqama. Wa l'hadith rawahu Ahmad wa al-Tirmidhi wa sahahahu al-Sheikh al-Albani rahmahullah. Puis, on prie le fajr, essaye d'être au premier rang. Pourquoi? Parce que les anges prient sur ceux qui sont au premier rang. Prie, ça veut dire quoi? Demande à Allah, Allah pardonne-leur, Allah fait leur miséricorde. Et surtout, du côté droit de l'imam. Ça, c'est des sunnahs. Si ton père est au deuxième rang avec toi, et que vous êtes côte à côte, et il y a un petit trou qui se fait au premier rang, est-ce que je le fais avancer par respect ou j'avance moi? J'avance moi. Pas de préférence dans les wajibat, dans ce qui est obligatoire et dans ce qui est surrogatoire. Dans tout ce qui est obligatoire, fard, wajib et mustahab, il n'y a pas de ithar. Pas de préférence. C'est-à-dire qu'il m'est recommandé d'aimer pour les gens ce que j'aime pour moi-même et de délaisser des choses sauf l'obligatoire et le surrogatoire. Comme exemple. Je suis avec mon frère Rachid et on va faire les ablutions. J'ai à peine un verre d'eau pour faire les ablutions et lui il a une pierre de tayammum. Une pierre. Est-ce que je lui donne l'eau qui est obligatoire et je prends le tayammum ou je garde moi l'eau, je fais ce qui m'a été demandé de faire parce que tu passes au tayammum que quand tu n'as pas l'obligatoire qui est l'eau. Et bien à ce moment-là, il est obligé que tu fasses tes ablutions avec cette eau et lui fera tayammum avec la pierre. D'accord? Pareil, je suis à la mosquée, il y a un trou qui se fait. Pour le premier rang, c'est moi qui avance. Je ne délaisse pas un endroit mieux placé pour un endroit moins bien placé. D'accord? Que ce soit pour mon père ou n'importe qui parmi les musulmans. Bien sûr, avec un comportement, on ne se bouscule pas pour avoir le premier rang, ni on frappe, ni rien du tout. Toute sunna qui ne peut être faite que par la violence, on la délaisse. Ça, c'est la règle. Toute sunna qui aboutit à une violence, je la délaisse. Pourquoi? Pour garder la fraternité entre les musulmans, car ça a beaucoup plus de valeur qu'autre chose. D'accord? Très important, faire attention à ça. Des fois, tu es dans la mosquée, tu vois, en dernière position pour la salat, dans le dernier tashahhud. La majorité des frères, tu vois, ils connaissent la sunna, ils mettent leurs pieds, tu vois, comme ça, et l'autre comme ça. Mais ça dérange les gens qui sont autour de lui, où il n'a pas assez d'espace. Eh bien, tu la délaisses si tu sens que tu vas gêner les gens. Ils ne vont pas pouvoir faire ta chaise tranquille. Ils seront là en train de dire, mais ce frère, il est grave quand même. Faut pas que tu arrives à ce stade-là. Taïf. Et en plus de ça, c'est une concurrence vers le bien. Au fil d'elle, il fallait atteindre, c'est le motanef et zoun. Papa, fallait courir plus vite que moi. Fallait arriver à la mosquée avant moi. Fallait prendre ce... D'accord? Très important. Par contre, quand il s'agit plus d'obligatoire et de surrogatoire dans la religion, mon père et ma mère, et les musulmans, je les fais passer avant moi. Je vais manger et boire. Je suis en train de serrer à boire aux gens. Est-ce que je bois d'abord ou je leur donne à boire eux? Non, ils boivent eux d'abord, après toi tu bois à la fin. Le prophète me dit, celui qui donne à boire aux gens, c'est le dernier qui boit. C'est ça les comportements qu'on doit avoir. Et le prophète, tout le temps, quand il s'agit des choses de la dunya, il essaie d'être le dernier. L'essentiel, c'est que les compagnons, ils mangent, ils boivent. Bien, à la fin, moi. Ça, c'était parmi ses comportements. Taï. Après le fajr, j'ai fait le fajr si jamais. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le prophète s'en est dit, « Man salla al-fajr fi jama'a, fa ka'annama qala al-layla kullu » rapporté par un muslim. Quiconque prie le fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Toute la nuit. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai fini al-fajr. Quelles sont les sunnahs à faire? Première chose. Astaghfirullah, 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 trois fois. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta hadha al-jalali wa al-ikram. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna 'ibadatik. Tout ça, c'est à apprendre par cœur. D'accord? C'est dans le livre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai fini ces azkar, c'est pas terminé. Après, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, que tu dois dire trois fois, trois fois, trois fois pour le fajr et maghrib. D'accord? Il y a aussi, après ça, tu peux faire aussi, quand tu fais ce zikr, tu peux aussi le faire avec les deux mains. Ça, c'est une parenthèse qu'on précise au frère, parce que beaucoup de gens pensent que zikr, ça ne se fait pas avec la gauche. C'est haram avec la gauche. Donc, tu as fait le tasbih, zikr, tout ça après la salat, tu as dit qul huwallahu ahad, tu as fait tout ce qu'il fallait. Après, tu as azkar al-sabah al-masa. Minimum, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils disent du'a Sayyid l'Istighfar. Vous le connaissez ou pas? La ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at, a'udhu bika min shari ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunub illa ant. Ce du'a, tu le fais. Et tu meurs dans la journée, tu vas au paradis direct. Tu le fais la nuit, et tu meurs, tu vas au paradis direct. À la fin, il s'appelle Sayyid l'Istighfar. Tu le dis deux fois dans la journée, une fois le matin, une fois le soir. Tu meurs, tu vas au paradis, Inch'Allah. Tu sais comment, des trucs simples qui mènent au paradis, mais non. Nous, on préfère la PS4, jouer au foot, jouer au je sais pas quoi. Ça, c'est pas bon tout ça. Taïf. Après, t'as pris donc ton fajr, t'as fait l'afkar, bien tout ça, t'as pris bien ton temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi? Là, on est en train de parler du jour, comme vous le savez, un jour dans la vie d'un jeuneur. C'est ça le titre. Taïb, tu rentres chez toi? Ça va pas, non? Tu rentres chez toi où? Il y a une sunna que tu vas faire vivre, Inch'Allah. Quelle est cette sunna? Tu restes à ta place, tu vas nulle part. Tu restes à ta place. D'accord? T'as fini, salat, tu restes. Tu fais du zikr, tu écoutes un dars, tu lis du Coran. Mouhim, tu restes jusqu'à shuruq. Jusqu'au lever du soleil. Après le lever du soleil, tu vas te lever, tu vas faire deux belles rak'at qui vont te donner la récompense d'un hajj et d'une umra. Quoi? Hajj umra à Drancy ou à Paris? Oui. Hajj umra. Je suis en train de dire hajj umra. Attention, hein, c'est pas le pilier de l'islam, tu vas l'accomplir ici. C'est pas tu te dis j'ai fait deux rak'at après shuruq, c'est bon, j'ai plus à aller en Arabie Saoudite. Non, tu as eu la récompense d'un hajj et de quelqu'un qui a fait une umra. D'accord? يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الترمذي من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة accomplie, complète et acceptée. Subhanallah. Il y a des gens, ils vont jusqu'à là-bas, hein, en Arabie Saoudite, ils font des trucs de malade, des fatigues, tout ça, ils se bousculent, ils s'insultent, tout ça, à la fin ils reviennent bredouilles, sans rien du tout. Sans hasanat, sans pardon d'Allah, rien du tout. Au contraire, ils reviennent avec des péchés. Là, tu peux avoir la récompense du hajj acceptée en faisant juste ça. Et comme j'ai dit, tu n'auras pas accompli le pilier de l'islam. Tu vas pas dire à quelqu'un, alhamdulillah, j'ai fait le hajj. Ah ouais? Subhanallah, tu m'as pas dit. Non, ce matin, je l'ai fait vite fait. Tu l'as fait où? À la mosquée, là, je suis parti, je fais deux rak'at. Après shuruq, tout ça, et c'est bon, alhamdoulilah. Non, faut pas bien, mal comprendre les choses. D'accord? Pour la femme, elle se demande, oui, mais moi, comment je fais, moi, pour aller à la mosquée? Salatik fi baytik khayr min salatik fi masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La prière de la femme à la maison est mieux que sa prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas ma parole, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. La prière de la femme, elle est mieux à la maison. Pourquoi? Elle évite les tentations et les fitnas. C'est mieux pour elle qu'elle prie à la maison. Mais avec ça, on ne leur interdit pas de venir à la mosquée. D'accord? Le prophète a dit, c'est muslim, la tamna'u ima Allah, messager d'Allah. N'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. Tu as le droit de venir à la mosquée, mais il est préférable pour toi de faire ça à la maison. Donc la femme, à la maison, elle prie son fajr et elle reste jusqu'à shuruq, elle fait deux rak'at, et bien elle a la même récompense que l'homme qui est parti à la mosquée et qui a fait ça. D'accord? Taïb. Et t'inquiète pas pour les mosquées pendant le mois du ramadan, ils ferment pas. Donc tu me diras pas, oui, mais jusqu'à shuruq, est-ce que la mosquée, inshallah, ils sont tous présents pendant ce mois-là. D'accord? Une chose très importante, les frères, subhanallah, quand tu réfléchis et que tu commences à vivre ce hadith que je vais citer maintenant, tu dis, subhanallah, c'est grand, c'est grand. Écoutez bien le hadith. Le hadith, il est rapporté par l'imam muslim, an Rabi'a ibn Malik al-Aslami, radiyallahu anhu, وأرضاه ورضي الله عن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي قال له سل البروفيت صلى الله عليه وسلم قال له سل Moi je veux que tu te mettes à la place de ce compagnon. D'accord? Toi ma soeur qui m'entend et toi le frère là qui m'entend. Le prophète me dit demande. Demande-moi quelque chose. Le premier réflexe des soeurs, je veux un mari pieux. C'est vrai ou pas? Le frère, je veux une bonne femme, pieuse, c'est vrai ou pas? Avec beaucoup d'enfants. Je veux une richesse, je veux de l'argent, je veux des constructions, je veux ci, je veux ça, c'est vrai ou pas? Les compagnons du prophète Asalm, la dunya, elle était inexistante dans leur cœur. Ils lui accordaient absolument pas de valeur. Absolument pas de valeur. Ce compagnon-là, après la question du prophète Asalm, il lui dit demande. Alors imagine, tu as la place de ce compagnon, le prophète, celui qui a le dua mustajab, celui qui a l'invocation exaucée, il te dit demande-moi. Le compagnon, vous savez ce qu'il lui a dit? As'aluka murafaqatika fil jannah. Ce que je te demande, c'est d'être ton ami dans le paradis, d'être ton voisin dans le paradis, d'être proche de toi dans le paradis. T'as vu son souci, c'est quoi? Ajib. On se compare un petit peu au compagnon. Franchement, on a des cervelles à deux balles ou pas? Quand tu regardes un petit peu, on pense à quoi? Une belle voiture, une belle femme, machin. Non, lui ce qu'il veut, c'est d'être avec le prophète sallam au paradis et qu'il soit son ami intime, proche de lui. Le prophète sallam, bien sûr, il ne se contente pas de poser cette question. Il lui dit, après cette question-là, il lui dit quoi? Il lui dit, c'est tout. Demande une autre chose. Allez, demande. Il lui dit, ho avec. Ça suffit, je veux rien d'autre. Subhanallah. Il n'a pas dit, bon, après que tu m'as dit maintenant que je pouvais demander une deuxième chose, ben maintenant, une bonne femme pieuse. Il lui a dit, ça suffit. Qala, fa'a'inni ala nafsika bi kathratil sujud. Si tu veux être avec moi au paradis, multiplie tes prosternations. Augmente tes prosternations vers Allah Azza wa Jal. Comment les augmenter? Il n'y a que 5 prières. Eh ben, avec le surrogatoire. Plus tu fais d'actes surrogatoires qui n'est pas obligatoire, plus tu seras proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu seras son ami dans le paradis. Franchement, c'est pas un beau cadeau ça? Wallahi, à chaque fois que tu fais maintenant ces rak'at de sunnah quand tu rentres à la mosquée de ça, rappelle-toi que ces rak'at ils sont en train de te rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas le faire avec un autre goût. Tu vas ressentir une autre chose. Pas comme avant. Allahu Akbar, je fais deux rak'at normal. Là, c'est deux rak'at, je suis en train de faire des pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça touche quand même, c'est incroyable. Et vous savez, dans un hadith que rapporte l'imam Abu Dawood, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les gens, il y a des gens dont de leur prière on n'accepte qu'un dixième. Ibn Abbas il disait on accepte de ta prière que le moment où tu es concentré. Donc expose ta prière à la concentration, tu vas voir qu'il y a des dégâts. C'est vrai ou pas? Pendant que je prie, je suis en train déjà à penser après ce que je vais faire après la prière. Je suis pas en train de penser à la salate. Pendant que je prie, je suis en train de penser à ce que je vais manger tout à l'heure. Ma mère, elle a fait une bouffe là, l'odeur est en train de me frapper le nez depuis tout à l'heure. C'est vrai ou pas? Pendant que je prie, je suis en train de penser à mon ami qui m'attend en bas là, qui m'a dit fais vite. Pendant que je suis en train de prier, Il y a une émission qui a commencé à 8h. Là, je suis en train de prier vite. Il faut que je bouffe la salade. Et le prophète Samuel a dit, voulez-vous que je vous informe qui est le voleur? Ils ont dit qui? Il a dit, le voleur, c'est celui qui vole dans la prière. Il y a quelqu'un qui vole dans la prière? Oui. Quand il rentre, il ne fait pas recours ni soujoud comme il le faut. Tac, 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 tac. C'est quoi ça? C'est pas un voleur, ça? Il vole dans la salade. La prière, il faut que tu la fasses en sentant une tranquillité totale et un apaisement total. Et le prophète s'est mis à dire, apaise-nous avec la prière, ya Bilal. Apaise-nous. Je t'imagine. Nous, c'est pas un apaisement. Des fois, c'est même un fardeau pour certaines personnes. Ta prière de... Oh là là, laisse tomber. Vas-y, vas-y, tout à l'heure. Mais va faire la salade. C'est obligatoire. Maintenant. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de gens dans leur prière, on accepte de leur prière qu'un dixième de la prière. D'autres, ça c'est le prophète qui dit, un neuvième, d'autres un huitième, un septième, six, cinq, quatre, un tiers, un demi de sa prière, hein, la moitié de sa prière, et d'autres personnes, ils ont 0 sur 10 dans leur salade. Ils sont rentrés dans la salade, ils sont sortis avec 0. Ça c'est leur note. Taïb. Maintenant que je sais que de ma prière, on peut accepter qu'un huitième, ou un dixième, ou un sixième. Que faire ? Pour que cette prière-là, le jour du jugement, elle ne vient pas fatiguée. Parce que le prophète sallam, il dit quoi? Il dit, awwal ma yuhasabu alayhi al-'abd, dans Sahih al-Jama'a, il dit, awwal ma yuhasabu alaykum assalam wa barakatuh. Awwal ma yuhasabu alayhi al-'abd, as-salat. Fa idha salahat, salaha al-'amal kullu. Wa idha fasadat, fasada al-'amal kullu. La première chose qu'Allah jugera le jour du jugement, c'est la prière. Si la prière a bien été accomplie comme il faut, tous tes autres actes ils seront acceptés. Si la prière elle a mal été faite, tous tes actes seront refusés. Parce que c'est le pilier, c'est la base. Hein? Moi, je vois que dans ma vie, des fois, je fais des prières en étant trop fatigué, donc je ne pense pas à la salade. Des fois, je retarde la prière. Il y a des erreurs dans nos salades ou pas? Réparer ça comment? Avec les surrogatoires, avec les sunnas. Le prophète, justement, il dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va dire le jour du jugement. Regardez chez mon serviteur, là, sa salade. Non, sa salade, elle est pas bonne. Taïb, il n'a pas des actes surrogatoires pour compenser ça? Et tes actes que tu es en train de faire là, tes deux actes surrogatoires que tu fais tout le temps, ils viennent réparer justement et améliorer la situation de la salade que tu as présentée. Puis une fois améliorée, Allah il dit acceptez-la. Donc est-ce qu'on a préparé du surrogatoire? Ou on se contente juste de l'obligatoire et on dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai tout fait? Tu veux que je fasse quoi de plus que ça? Non. Al-Nawafil. D'accord? Bon. Je sais déjà ce que je vais entendre. Oui, mais on travaille, nous, pendant le mois du Ramadan. On a école. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Déjà, jusqu'à fait, tu nous as donné un programme de 4 siècles et demi. Hein? Comment on va faire? Minimum, comme ils disent les ulama, ma la yudrak kullu, la yudrak kullu. Si tu ne peux pas tout faire, ne délaisse pas tout. Fais le maximum. Fais le maximum, ça veut dire, je ne peux pas faire tout le temps cette histoire de shuruk là, à la mosquée. Eh bien, c'est facile, je le fais le jour de mon repos. J'en ai 2-3 dans la semaine, j'ai un jour où je commence tard. Eh bien voilà, je profite, je mets ces adorations-là dans ces moments-là. D'accord? Puis après cette prière, tu as fini ça, bien sûr, à la mosquée, tu fais quoi? Tu vas, tu te lèves dans la mosquée et tu commences à serrer la main à tes frères pour gagner des hasanettes, car en serrant la main à ton frère, tu gagnes des hasanettes. Une chose, petite remarque qu'on fait, c'est le mot taqabbal Allah. Après la salat, c'est devenu une sunna de dire taqabbal Allah. C'est une sunna. On dirait le prophète Sami l'a dit, après la salat, qulu taqabbal Allah. C'est vrai que le prophète Sami l'a dit, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuh tahabbtum, qala afshu salam baynakum. Répondez-vous le salam entre vous. Hein? Et en serrant la main, tu as dit hasanat. Comme un homme, il est rentré, le prophète Sami était là, et il a dit assalamu alaikum, le prophète Sami il a dit 10. 10 hasanat. Le deuxième, il est rentré, il a dit assalamu alaikum rahmatullah, il a dit 20. Le troisième, il a dit assalamu alaikum rahmatullah barakatuh, 30. Et le hadith, il est dans le Targhib al-Tarhib de Sheikh Al-Albani. Donc, plus je dis assalamu alaikum, plus j'ai des hasanat. Et en serrant la main à mon frère, tant qu'on ne s'est pas quitté, on est en train de faire tomber les péchés de la journée. Donc, c'est tout bénef. C'est vrai ou pas? Mais on adore Allah qu'avec ce qu'Allah et son prophète ont légiféré. Il ne nous appartient pas à nous, ni à n'importe qui de dire ça c'est une sunna, ça c'est haram, ça c'est mustahab. Non. Toutes ces paroles-là que je suis en train de citer, ils ont besoin de preuves. Donc, taqabbal Allah. Si je vais après la salat, je serre la main à quelqu'un, je lui dis, nasal Allah an yataqabbala minna salatana. Je lui dis une fois comme ça, un doigt, il n'y a pas de mal. Mais que j'en fasse une habitude, une ada, tous les jours, C'est que j'ai fait quoi? J'ai inventé une nouvelle sunna. Et est-ce que le prophète... Là, je viens de finir le fajr, je rentre chez moi. Après avoir dit le dua en sortant de la mosquée, Allahumma, bismillah, wa salatu wa rasulah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni min ash-shaytan ar-rajim. J'ai fait ce dua, je suis sorti de la mosquée. En rentrant chez moi, je fais quoi? Je fais quoi sur la route? On a oublié? Vic! La langue, elle travaille, les frères. Habituez-vous, préparez vos intentions dès maintenant de faire tout ça. Préparez les intentions. Hein? Jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Là, je suis chez moi devant ma porte et je m'apprête à rentrer chez moi. Il est recommandé de dire Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. D'accord? Ou Bismillah wa lajna wa Bismillah kharajna wa ala Allahi tawakkalna. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud. En rentrant à la maison, tu dis au nom d'Allah, nous entrons. Et au nom d'Allah, nous sortons. Et au nom d'Allah et en Allah, nous plaçons notre confiance. Puis, tu salues ta famille. Assalamu alaikum rahmatullah. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert de dire assalamu alaikum, ma famille est en train de dormir. Tu crois qu'elle va m'attendre tout ça? Tu dis assalamu alaikum rahmatullah parce qu'il y a des anges dans ta maison. Il y a des anges, même s'ils t'entendent, toi. Tu dis, il y a les anges. Et Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam, il a dit, écoutez bien, إذا دخل الرجل بيته فذكر الله, celui qui rentre à la maison en disant Bismillah, le dua, salam alaykum wa rahmatullah, à partir du moment où il a dit Bismillah, écoutez ce qui arrive après. ذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Le shaitan il dit aux autres, diable, écoutez, il a dit Bismillah avant de rentrer à la maison et Bismillah avant de manger. Vous n'allez ni dormir chez lui ni manger chez lui. Vous n'êtes pas invité. Ce mec-là, il ne vous aime pas. D'accord ? Alhamdulillah, il ne faut pas les aimer. Ensuite, وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرَ اللَّهِ. Écoute bien, s'il rentre et il ne dit pas Bismillah, عند دخوله, قال الشيطان أدركتم المبيت. Vous êtes invité. Il vous invite, le frère. Qu'est-ce qu'il est gentil, on allait dormir dans la rue ce soir. Hein ? وَإِذَا لَمْ يَذْكُرَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتُ وَالْعَشَاءِ. Et s'il mange sans dire Bismillah, parce que monsieur c'est un mec moderne, il ne dit pas Bismillah, il mange avec la bouche, hein? Il ne connaît pas toutes ces sunnahs. Eh bien les shayatines, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il n'a pas dit Bismillah, ni en entrant à la maison, ni en mangeant, pension complète. Pension complète, matin, midi, soir, vous avez tout, nourri, logé. Vous ne pouvez pas avoir un hôtel mieux que celui-là. Imagine-toi, tu rentres, tu dis pas Bismillah. Une centaine de shaitans y rentrent à la maison. Une centaine de shaitans y rentrent à la maison. Hein? Et toi, tu as déjà un problème dans ta vie, c'est qu'il y a un shaitan qui court dans ton sang. Ta femme, elle a un shaitan qui court dans ton sang. Tes enfants, ils ont des Iblis Club à la fin. Hein? On est dans un monde où, ça y est, c'est l'hôtel d'Iblis. Faut faire donc attention, tu rentres, Bismillah. Allez, bye bye, je vous chasse. Allez voir quelqu'un d'autre. Maintenant, il rentre le gars. Salut tout le monde. Coucou, ça va? Ça gaze? Ça va les loulous? Non, nous on connaît pas tout ça. Nous on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 30 hasana. On rentre avec 30 hasana à la maison. Pas avec les trucs bidons là. Cool, ça va, ça gaze, ça pète, ces trucs là. On dit pas tout ça nous. D'accord? Tu rentres avec dhikr. Les vraies paroles qui ramènent des hasanats. D'accord? Et an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya bunayya idha dakhalta baytak fasallim ala ahlik yakun alayka baraka wa ala ahli baytik. Rapporté par Tirmidhi. Il y a une bénédiction une fois rentré à la maison de dire salam alaykum pour toi et pour ta famille. Une fois à l'intérieur de la maison, je prépare mes vêtements pour le travail. Ça y est, j'ai fini le fajr, le shuruq, tout ça, je vais aller bosser. Je suis pas un chômeur. Non, le musulman, il est actif. Il bosse, il travaille. D'accord? Alors, il commence à se coiffer, tout ça, il se fait beau gosse. On t'interdit pas d'être beau gosse. Allah, il a dit, dans le prophète Midi, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, Inna Allah nazif yuhibbul nazafa. Allah est propre et aime la propreté. Et quand on parle des attributs d'Allah, faut pas les faire ressembler aux attributs des créatures. Très important. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa sami' al-basir subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, man kana lahu sha'r falyukrimhu. Avant de sortir de la maison, le prophète a dit, si tu as des cheveux, eh ben honore-les, entretiens-les tes cheveux. Hop, je me coiffe. D'accord? Bien. Je mets du gel ou pas? Gel, c'est pas chez nous, les frères. C'est bon, on arrête d'imiter les gens. D'accord? Sors avec de l'eau, de l'huile d'olive, un truc comme ça. Mais gel, c'est bon. Délaissez un peu ces choses-là. Essaye d'être simple. Hein? C'est bon. Donc, tu as fait ce dua là. Après, tu t'es regardé dans le miroir. Il y a un dua à dire. Allahumma kama hassanta khalqi, fahsin khuluqi. Rapporté par Ibn Hibban. Allah, comme tu as parfait ma création, parfait mon comportement. Subhanallah. C'est vrai ou pas? Le corps humain, il est parfait. Il fonctionne tout le temps. Il n'y a pas de technique sauf dans les épreuves, tu vois. Mais en règle générale, quand tu te réveilles, c'est pas comme une voiture où tu fais préchauffage 3 fois, elle démarre pas, faut la pousser. Quelqu'un t'a déjà poussé pour que tu démarres. Alhamdulillah, tout ça, ça fonctionne tranquille. Donc, tu te lèves, tu regardes le miroir, tu fais ce doigt. D'accord? Donc, je m'apprête maintenant à sortir. Je prépare mon intention. Là, je vais sortir pour bosser. Quelle est mon intention? Mon intention, c'est que j'aille être, comme je suis prof, que je sors, je vais à l'école, et qu'on me dise prof, professeur, maître. C'est ça mon intention. L'autre, c'est un docteur. Mon intention, c'est qu'on m'appelle docteur. Ah, le docteur, il est venu. C'est bon. Attention. Hein? Le docteur est dans la place. Non, mon frère. Ton intention, c'est pas ça. Quelle est ton intention? Mon intention, c'est que mon taf, mon boulot, aide les musulmans. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait d'une habitude, chose que je fais habituellement, mais je l'ai transformée en adoration. Avec quoi? Avec niya, l'intention. L'intention, elle transforme les habitudes en adoration. Les traditions, les coutumes en adoration. Donc, à chaque fois que tu fais une chose, prépare-lui une intention. Tout le temps, tu lui prépares une intention. Et Salaf al-Saleh, avant de faire chaque chose, il préparait des intentions. Avant de manger, avant de boire, tout. Je mange pourquoi? Pour avoir plus de force pour adorer Allah. Je bois pourquoi? Pareil. Je dors pourquoi? Pour avoir plus de force pour adorer Allah. Tout ça, c'est de l'adoration. Toutes ces secondes-là que je suis en train de passer, en train de manger, boire, dormir avec ma femme, c'est des hasanettes dans mon compte. Ensuite, là, il faut que tu saches que la preuve de ça, c'est inamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention. Tu fermes la porte de la maison. Il y a un doa à dire en sortant de la maison ou pas? Bien sûr qu'il y en a. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah azzajal. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Dans mon chemin, en allant au boulot, je suis en dhikr. Ma langue, elle travaille. Je vais prendre les transports ou je vais prendre ma voiture sur la route. Je baisse le regard, je donne le droit de la route. Le droit de la route, c'est quoi? Qui me rappelle? On avait dit ça. Allez, je fais travailler un peu les mémoires. Le droit de la route. Vas-y. Barakallahu fik. Saluer les gens, baisser le regard, ordonner le bien, interdire le mal et s'abstenir de faire tout mal. Ça fait partie des droits de la route. Ça fait partie des droits de la route. D'accord? Donc, je respecte tout ça. Je monte dans la voiture ou dans le métro ou dans le bus ou dans n'importe quel moyen de transport, il y a un doua à dire. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Au nom d'Allah, la louange est à Allah, gloire à celui qui a mis ceci à notre service. Ceci c'est quoi? C'est ce moyen de transport, d'accord? Alors que nous étions pas capables de les dominer. Et c'est vers notre Seigneur que nous devons retourner. D'accord? Dans Sourate Az-Zukhruf. Une fois dans les transports en commun, je vois un vieux ou une vieille qui veut s'asseoir, ou qui est fatigué, qui est enceinte, qui porte beaucoup de choses. Je fais quoi? Je laisse ma place. D'accord? C'est le mois de la miséricorde, les frères, et pas le mois de la violence. C'est le mois où justement on veut sentir le bon comportement des gens, et pas l'inverse. D'accord? Quelqu'un qui a besoin d'une aide, apporter une poussette ou n'importe quoi, tu dois être le premier à aider ces gens-là. Bien faire mon travail aussi. Ça fait partie des adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi fi Shu'ab bi sanad hasan qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah ta'ala yuhibbu min al-'amil idha 'amala 'amalan an yuhsinahu. Allah azza wa jalla aime quand quelqu'un fait une chose qu'il la maîtrise et qu'il s'applique en la faisant. Je fais mon travail. Je bac. Allah aime que tu t'appliques et que tu maîtrises cette chose-là. Donc si on me met dans un poste, il faut que disent, voilà, ce musulman, il a cartonné. Il a très très bien fait. Franchement, il faut faire travailler des musulmans. Ils sont trop bien. Ils craignent Allah Azza wa Jal. Ils sont là à se rendre des comptes tout seuls. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les contrôler derrière. Il y a l'autocontrôle. Al-Murataba. D'accord ? Donc, il ne faut pas profiter de ce mois pour dormir, pas aller au travail, bâcler son travail et dire c'est le mois du Ramadan. Non, car c'est le mois de l'effort physique et l'effort moral. Taïf. Essayez d'être toujours aussi en état de pureté. Toujours essayez d'avoir tes ablutions pendant la journée. Le professeur me dit « La yuhafad ala l'udu illa mu'min » Ne prends soin des ablutions qu'un croyant. Tout le temps. Essaye de renouveler tes ablutions. Tout le temps. D'accord ? Après, tu as une belle sunna qui t'attend avant Salat al-Dhuhr. Quelle est-elle ? Naam ? Une nafila. Naam. Barakallahu fik. Heureusement que tu étais là. Comment on aurait fait sans toi ? Salat al-Dhuhr. C'est quoi Salat al-Dhuhr ? Qu'est-ce que tu nous racontes là ? Il y a une salat qui s'appelle Dhuhr ? Oui, c'est une sunna. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette sunna ? Écoute. حديث رواه أحمد وصححه المنذري عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسان 60 و300 مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة tu vois et à la fin il a dit ركعتي الضحى تجزئ عنه le prophète صلى الله عليه وسلم dit que l'homme dans son corps il y a 360 articulations 360 articulations c'est bien compris hein. Chaque jour, tu dois faire une aumône sur ces 360 articulations. Et il a dit, le prophète sallam, pour ces articulations-là, que la bonne parole, c'est une aumône. Tu dois faire des sadaqas. C'est-à-dire, pour ces 360 articulations qui marchent dans ton corps, tu dois rembourser ça par des sadaqas. D'accord ? Imagine, tu payes juste 10 centimes sur une articulation, ça fait combien par jour ? Fois 360. Combien ? 3 euros ? 30 ? 300 ? Combien ? Hmm ? 30 euros et quelques. Non, ça fait pas ça ? Taïf, imagine ça, fois 30, fois 30 jours. Ça fait combien ? 900 ? Non ? À peu près. Minimum 900 euros que tu dois payer pour ces articulations-là, si c'était 10 centimes par jour. Mais alhamdoulilah, la religion, elle est simple. C'est beaucoup plus facile que ça. Tu fais une tasbiha, sadaqa, une takbira, sadaqa, un tahlil, sadaqa. Hein? Tu dis une fois, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, c'est des aumônes. Tu ordonnes le bien, c'est une aumône. Et le prophète, à la fin, il dit, et au lieu de faire tout ça, tu peux faire deux rak'at de duha, c'est la sadaqa de ton corps chaque jour. C'est comme ça que tu rembourses la dette que tu as envers Dieu sur tous les bienfaits qui marchent dans ton corps. Hein? Ta main, alhamdulillah, elle est pas en panne, elle bouge, elle vient, elle monte, elle descend. Hein? Ta langue, alhamdulillah, elle parle. Elle dit des fois des missiles, hein, entre frères, tout ça. Tout marche comme il faut. D'accord ? Taïf. Donc, tu dois le faire. Cette sunna-là, il ne faut pas la délaisser. Je la fais quand ? Écoutez bien. Il y a trois moments où il est interdit de faire des sunnas. Après le fajr, jusqu'à shuruq. Après l'asr, comme vous le savez tous, jusqu'à maghrib. D'accord ? Et waqt al-zahira, qui est à peu près une demi-heure comme ça, quand en fait le soleil, il atteint sa chaleur intense. D'accord ? Avant dhuhr de peu de temps. Ces moments-là, il n'est pas conseillé. Donc tu vas faire entre shuruq et avant le fajr, à ce moment-là, al-dhuha. Le recommandé, c'est avant le dhuhr d'une heure à peu près comme ça, environ. 10h, 11h, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tu fais 2 rak'at et tu auras fait une aumône sur tout ton corps. Le mieux, c'est d'en faire 4. Il est autorisé d'en faire 6, il est autorisé d'en faire 8. D'accord ? Il y a un hadith qui dit 10, 12, ils sont daif. D'accord ? Tu fais 2 ou 4 rak'at. Avec, il est recommandé aussi de réciter « Wadduha wa shams wa duhaha » les surat où il y a duha justement. D'accord ? Et une petite rak'at que tu fais rapidement. C'est des moments où le prophète Hassan, il a dit, j'ai pas le hadith en tête, mais il l'avait interdit, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison, Inch'Allah, si tu me rappelles la semaine prochaine, je te le dirai bi'idhnillah. D'accord ? Donc, dans un autre hadith, le prophète Hassan, il dit, pratique l'équité entre deux personnes, t'es juste entre deux personnes, c'est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture, peut-être quelqu'un à monter sur sa monture où tu l'aides, eh ben, t'as une aumône. Ou placer ses bagages dessus. est une aumône. Dire une bonne parole, c'est une aumône. Tout pas effectué vers un lieu de prière est une aumône. Écarté de la voie publique, quelque chose qui nuit. Tu es en train de marcher, tu vois sur la route un bâton qui gêne la route. Tu l'enlèves. Tu as une aumône. Dans la version de Muslim, il rajoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il suffit de faire à la place de tout cela deux rak'at que le fidèle effectue après que le soleil se lève de la hauteur d'une lance, qui est dhuha. D'accord? Après dhuha, il y a salat dhuhr, que tu vas faire, inshallah, à la mosquée, quatre rak'at. Avant dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait deux rak'at à la maison, sunna, et il en faisait deux à la mosquée. Ça fait quatre avant dhuhr. C'est ce qu'on appelle sunan al-rawatib. Il y en a 12 par jour. Celui qui les accomplit, Allah lui construit une maison au paradis. 2 Fajr, 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. Ça fait 12. D'accord? Tu les as fait, tu as une maison au paradis. C'est simple, subhanallah. Très simple. Dans un hadith, dans Sahih al-Jama, le prophète me dit que aussi tu délaisses le débat, même quand tu as raison, tu as une maison au paradis. Les maisons au paradis, elles sont gratuites. Hein. Facile à avoir. Mais nous, on n'y court pas trop derrière. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في اليوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة في الحديث كما تيتي 2 au fajr 4 ظهر ça on l'a dit après les rawatib bien sûr il y a l'adhkar puis après ظهر tu vas faire le dhikr après le dhikr tu as fini le travail tout ça si toi tu finis le travail il y a des gens qui travaillent jusqu'à 1h 2h Rentre chez toi, après Dhuhr, et tu fais une sunna que beaucoup de gens ont négligé aujourd'hui, c'est Al-Qayloula. C'est quoi Al-Qayloula? Une sieste, barakallahu fik. Tu rentres chez toi et il y a une sunna. An Anas, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qayilu, fa inna shayatin la taqil, rawahu al-Tabarani. Faites une sieste après Dhuhr, car les shayatin ne font pas de sieste. D'accord? 20 minutes, une demi-heure, une heure. Une petite sieste, c'est une sunna. سنة دلسي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان ابنه يقول الإمام أحمد son fils il disait كان أبي يجمعنا وقت القيلولة ويقول لنا ناموا فإن الشياطين لا تقيل سبحان الله الإمام أحمد il amenait tous ses enfants à la période de القيلولة et leur disait dormez car les diables ne dorment pas et l'imam Hassan al-Basri il disait si seulement les diables ils dormaient on serait reposé un petit peu c'est vrai on serait en repos Mais ils sont là, 24 heures sur 24, ouest, ouest, shaitan, shaitan, shaitan. Il est possible, hein, il est possible. Parce que là, le cours, il est un petit peu long, qu'il y en a, ils ne supportent plus, là. Ils regardent la montre. Ils ne tiennent pas. C'est vrai ou pas? C'est possible. Allah me pardonne pour ce temps que je vous ai pris, mais wallahi, les frères, si vous savez la récompense que vous avez en étant assis ici, je vous rappelle quelques hadiths. Le prophète samedi dans Sahih Muslim 1, que les anges nous entourent. Les anges, ils cherchent ça. Et ils parcourent toute la terre pour chercher les cercles où on en évoque Allah Azzawajal. Et dès qu'ils en trouvent un, ils disent « Halloumou ila hajatikoum, venez, on a trouvé ce qu'on cherche. » Des gens qui écoutent la parole d'Allah et du prophète sallam. Et ils nous entourent. Et ils se mettent l'un sur l'autre, elle sur elle, jusqu'au-dessus des sept cieux. Et tous ces anges-là que tu ne vois pas demandent une seule chose. « Allah pardonne-lui, Allah fait-lui miséricorde. » À la fin, Allah Azzawajal est dit « Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. » Je vous prends pour témoin, ô vous, les anges, que je leur ai pardonné tous leurs péchés. T'as fait quoi pour avoir Tu t'es assis 2 heures. Dans un autre hadith, le prophète Sami dit, le hadith il est rapporté par l'imam al-Mundiri et il est authentifié par Cheikh l'Albani. Il dit quoi le prophète Sami? Il dit, quiconque va à la mosquée en ayant comme intention d'apprendre ou d'enseigner, et c'est que ça son intention, Allah lui écrit la récompense d'un hajj complet. Vous avez la récompense d'un hajj, subhanallah, c'est incroyable, des montagnes de hasanat. Sans compter que là, tu es en train de nourrir ton âme, qui est en train de mourir toute la semaine, qui n'entend jamais les paroles d'Allah Azzawajal, qui peut supporter un match de foot pendant 3h30, un cinéma, tout ça, mais quand il s'agit des paroles d'Allah, ça commence à devenir long là. Je pense qu'on va trouver une autre mosquée. Hein. C'est vrai, quoi. Ah non, s'il y a des frères qui peuvent nous faire un rappel de 10 minutes, c'est bon. Un quart d'heure, 20 minutes, 30. Ouais, comme ça, salam alaykoum. On profite les frères, Wallahi, je suis sûr qu'on apprend des choses ensemble. Même si ces choses-là, ce n'est pas des choses nouvelles, au moins c'est un rappel. Et le rappel profite aux croyants. Et en plus, j'ai bientôt fini. C'est une bonne nouvelle. D'accord? Taïb, j'ai fini le Qayloula. Il y a le temps de l'Asr qui arrive. Est-ce qu'il y a une sunna ou pas? Le prophète Sassam, il a dit, « Rahim Allahu man salla قبل العصر أربع ركعات. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui prie avant l'Asr 4 rak'at. Ce n'est pas des sunnah mu'akkada comme les 12 qu'on vient de citer tout à l'heure. C'est notre sunnah. Tu fais 4 rak'at avant l'Asr, et bien Allah te fait miséricorde. Subhanallah. Et on en a besoin de ces choses-là. Le hadith, il y a une divergence sur son authentification. L'imam Abu Dawud et Tirmidhi, ils ont dit qu'il était daïf. Mais Cheikh Al-Albani l'authentifie. Après, tu pries l'Asr. Avant ça, bien sûr, il y a l'adhan et l'iqama, tu fais le dua entre l'adhan et l'iqama, toutes les sunnahs qu'on vient de citer tout à l'heure, je ne vais pas répéter. Et cette prière-là, elle est très importante. Très importante, car il y a un verset qui est descendu sur cette prière-là. قال عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux salats, soyez assidus aux salats, à la prière, et surtout la salat médiane. La salat médiane. Les mufassirines, ils ont dit la salat médiane, c'est l'asr. Hein? Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Wa salat al-wusta hiya salat al-asr ala al-sahih li qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma shaghalahu al-ahzab. Le prophète sallam, il a dit shaghaluna an salat al-wusta, ils nous ont occupés à la prière médiane, salat al-asr. Et il est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc c'est clair que salat al-wusta, c'est al-asr. Il y a un verset dessus. Après l'asr, tu vas lire un peu de Coran. Là, il y a bientôt le Maghreb. Essaye de rester à la mosquée. Lis du Coran. D'accord ? Minimum, tu vas lire 10 pages. Minimum. Parce que par jour, il te faut 20 pages par jour pour terminer le Coran en un mois. Il y a 600 pages. 600 pages divisées par 30 jours, ça veut dire 20 pages par jour. En long, en large, en travers, tu dois les faire. La technique la plus simple, c'est après chaque prière, tu lis 4 pages. 4 fois 5, ça fait 20. Ça, c'est le programme de la lecture du Coran. Il faut minimum tu lis une fois dans le mois. Minimum. Tu as plus de force, plus de capacité, deux fois dans le mois. Plus, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, vous allez voir que l'imam Shafi'i, il le lisait 60 fois dans ce mois-là. 60 fois. Ça veut dire quoi 60 fois? Deux fois par jour en entier. 1200 pages par jour. 1200 pages. T'imagines un peu? L'imam Abu Hanifa, pareil. Les grands ulama, ils étaient tous comme ça. L'imam al-Bukhari, pareil. Tous les jours, il le lisait une fois. Ça, c'est important, les frères, de voir un peu comment ils vivaient. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il priait des fois en une rak'at avec le Coran complet. 600 pages en une rak'at. L'imam, quand il fait une demi-heure ou une heure dans le tarawih, frère, il faut nous trouver une mosquée un peu plus douce. Il m'a abîmé les pieds, le imam, là. Il n'est pas bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? On cherche tout le temps l'imam. C'est pas grave, je ne veux pas comprendre, je veux finir vite. Non, essaye de trouver l'imam qui va te ramener la concentration, al-khushu', qui a une bonne lecture. C'est ça le critère. Taïf, je lis chaque hasan, chaque lettre, elle a quoi comme valeur? Comme récompense, qu'est-ce qu'elle a? 10 hasanat. Tu t'imagines? Alif lam mim, qu'on voit dans le début des sourates, c'est pas un mot, c'est 3 lettres. C'est-à-dire que tu as 30 hasanat en disant alif lam mim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 190 hasanat. C'est incroyable. 19 lettres. 190 hasanat, c'est vraiment gratuit, c'est donné, mais un peu plus de motivation. Taïf. Ensuite, il y a Adhan al-Maghrib. Dès que l'imam dit Allahu Akbar, le mu'adhin, dès qu'il dit Allahu Akbar, qu'est-ce que je fais? J'attends ta shahoud pour manger, c'est ça ou c'est pas ça? Il n'a pas encore dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Moi je mange que quand il dit ta shahoud. Pour que je vois, il fait musulman ou pas, c'est vrai ou pas? Il faut qu'il dise shahada d'abord. Non, mon frère, il dit Allah, sans terminer, tu manges. Tu manges, c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas de retarder jusqu'à la fin du adhan. Il y en a, des parents, ils nous disent jusqu'à la fin, et d'autres jusqu'à tashahhud. Tout ça, c'est pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il dit Allahu Akbar, tu manges. D'accord? Tu te hâtes à la rupture du jeûne et tu retardes le repas de fin de nuit, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith apporté par Ahmed. Faites pas comme les gens, la majorité, ils attendent Ashhadu an la ilaha illallah. Donc, il dit, une chose qui est mauvaise aussi qu'on fait, c'est que la majorité des gens, quand ils arrivent à Maghrib, ils prennent la date ou l'eau. D'accord? Il est recommandé de manger des dattes et de l'eau pour le Maghrib. Il prend la date, il mange. Avant de manger, avant de la mettre dans la bouche, il dit Bismillah, Allahumma inni laka sumt. Wa ala rizqika aftart, dhahab al-dhama, wa talat al-uruq, wa thabat al-ajl, insha'Allah. Et après il mange. Erreur, faux. Faux. Tu dis Bismillah, tu manges une date, et après tu dis le dua. Et après, tu continues à manger. Pourquoi? Parce que quand tu manges, tu as dit Bismillah, tu as mis une date. D'accord? Après, tu dis Allahumma inni laka sumt wa ala rizqika aftart. Aftart. Je viens de manger. Comment tu peux dire aftart et tu n'as rien mis dans la bouche? Tu as dit dans un entier sans avoir mis quelque chose dans la bouche. Hmm? Donc, Bismillah, je prends cette date ou un petit peu d'eau. Après, je dis le dua et je continue à manger. Et bien sûr, n'oubliez pas Allahumma barik lana fima razaqtana wa razaqna khayran minhu. Quand c'est du lait et ces soumets ils vivent. Je mange, j'ai mis de l'eau et des dattes, je vais à la mosquée, je fais salat al-maghrib. Ah, comment ça met le... Subhanallah, pour le ramadan, Isha, tu ne peux pas trouver de place dans la mosquée. Mais venez au maghrib dans la mosquée, vous allez voir si vous allez trouver une rangée. Une rangée. Hein? Ça fait 30 maghrib, tu les fais sauter du mois en faisant tes habitudes et tes coutumes. D'accord? T'y vas. Et. Une chose aussi qui est marrante, c'est que la plupart des jeunes, tu les vois motivés, ils achètent des dates, ils se mettent dans la mosquée, et ils donnent une date à lui, une date à l'autre, un jus, un truc, un gâteau. Alhamdulillah, fattar sa'im. Hein? Je donne à manger à un jeûneur. Et le professeur me dit, man fattar sa'iman, kana lahu, mitl ajru, donne un yankus, min ajri shay'a. C'est-à-dire, quiconque donne à manger à un jeûneur, nourrit un jeûneur, il aura la même récompense de son jeûne, sans que celui-là ne soit diminué de sa récompense de hasanat. Tu imagines? Mais il a dit nourrit. Est-ce qu'une date ça nourrit quelqu'un? Man fattara sa'iman, ça veut dire qu'il l'amène à la maison, mange, je lui remplis le ventre. Hmm? Ah bon? Moi je croyais qu'en donnant une date à lui, une date à lui, une date à lui, j'ai nourri plein de jeûneurs. Non, tu n'as pas nourri plein de jeûneurs. Tu as eu quand même une aumône. Le professeur me dit fattakul nar wa la ubishiqi tamra. Craignez l'enfer, ne serait-ce que avec une demi-date. Une demi-date, elle peut te sauver de l'enfer. Hmm? Mais. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est que tu rentres, tu manges chez lui. Après l'avoir bien fait manger, là, t'as l'ajr, t'as toutes les hasanat. D'accord? Et le hadith que je viens de citer tout à l'heure est rapporté par Bukhari et Muslim. T'as dit le dua, t'as fait salat al-maghrib, hein? Maintenant, tu rentres chez toi, maintenant, et tu manges. Et s'il vous plaît, les frères, on mange pas comme des sauvages. On mange pas comme des sauvages. On mange comme des êtres humains, s'il vous plaît, Allah ybarik fikoum. Je sais que toute la journée, tu es en train de rêver de la shorba du soir, des briques, des dattes, avec dedans des amandes et du beurre et des trucs comme ça. Ça te fait des vibrations dans le cerveau. Mais s'il vous plaît, les frères, mangez pas comme des sauvages. Le prophète Sami l'a dit, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'eau, un tiers de nourriture, et un tiers, tu respires. Nous, c'est trois tiers de bouffe, on laisse pas d'oxygène. J'arrive plus à bouger de la chaise. Après, je me lève pour Tarawih. Il est diversé. Ah non, c'est même, il est trop mauvais, hein. Il est trop lentement. C'est toi qui es trop lourd, mon frère. Diminue un peu ta charge pour que tu puisses rester debout. Hein? Fais pas travailler l'usine qui est à l'intérieur, là. Calme-toi. Allah Azza wa Jalla dit, Kulu wa shrabu wa la tusrifu. Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Inna Allah la yuhib al-musrifin. Et dans le hadith que rapporte An-Nasa'i ibn Majah, le prophète Azami dit, Kulu wa shrabu wa tasaddaqu wa al-bisu. Mangez, buvez, donnez des aumônes et habillez-vous. Avec deux conditions. Écoutez bien. Tant que tu n'as pas commis d'excès ni d'orgueil. T'as vu les phrases comment elles sont bien ciblées? Tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas d'orgueil. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ah mon frère, c'est la dernière pompe. Faut que je frime. Hein? Pourquoi t'as mis ces lunettes? C'est pour ma vue. C'est que ça? Non. Faut aussi avoir un bon truc. Pourquoi? Eh mon frère, tu crois que moi je suis comme les autres? Moi j'ai de la thune, faut que je me distingue. Kibr, orgueil. وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. Celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur, il ne sentira pas l'odeur du paradis. D'accord? Après, tu fais le tarawih. Le prophète sallam dit إِنَّ الرَّجُلَ إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسبت له بقية ليلته. سبحان الله. Le hadith est rapporté par Abu Dawud al-Tirmidhi. Quiconque commence le tarawih avec l'imam jusqu'à la fin, Allah lui écrit la récompense d'une prière de toute la nuit complète. Mais à condition qu'il termine avec l'imam. C'est pas il rentre avec son père, il fuit au milieu de 4 rak'at, il revient pour l'ouitre, Allah dua, 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 et il ressort. Ah papa, franchement, mashallah, j'ai bien tenu aujourd'hui. Hein. Ah, j'avais la pêche. Allah, t'as peur de qui? Tu fais ça pour qui? T'adores Allah ou t'adores qui? Explique-moi s'il te plaît. Si c'est pas pendant ce mois-là que tu vas te rapprocher d'Allah et de la mosquée et des salawats, c'est quand? Ma sœur aussi qui m'entend, si c'est pas maintenant qu'on prend des nouvelles résolutions, et c'est pas maintenant que je prépare toutes ces bonnes intentions pour accomplir le bien, et tout ce que je suis en train de dire là, si on peut pas le faire entièrement, on en fait le maximum, et on s'entraide. On peut pas écouter, ah vas-y c'est bon, ces choses-là on les a entendues mille fois. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces mille fois? Qu'est-ce qu'on a appliqué de ces mille fois? Justement, plus t'entends, plus tu seras jugé le jour du jugement. Parce que tu persistes dans l'erreur. Un peu de réveil, un peu de motivation. Là, il nous reste quelques semaines, on se motive bien comme il faut, comme ça on aborde le ramadan avec une bonne motivation, et la mosquée c'est notre maison pendant le mois du ramadan, et après le mois du ramadan, s'il vous plaît les frères. Donc, après, j'ai fait le tarawih, je rentre chez moi. S'il me reste un peu de temps, je suis en talib ilm, je peux réviser un petit peu l'ilm, tout ça, ou je continue la lecture du Coran pour finir mes 20 pages. D'accord? Et il est recommandé, les frères, que pendant le ramadan, vous dormez tôt. Pour pouvoir accueillir et entamer les autres journées sans difficulté. Avant de dormir, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je vais faire mes ablutions. Je ne vais pas aller regarder les caméras cachées. Les caméras cachées du ramadan. Je ne vais pas aller regarder Moussel Salat Ramadan, Fawazir Ramadan, Masrahiyat Ramadan, Aflam Ramadan, Aghani Ramadan. Ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis un adorateur d'Allah. Tout ça, je me débranche. La prise, je la débranche. Ce mois-là, il faut que ma foi, elle fasse un saut, un tremplin. Il faut que je sente que ce mois-là, il n'a rien à voir avec l'année dernière. L'année dernière, le mois du ramadan, j'étais tout fatigué, trop faible. Cette année, je sens que j'ai fait énormément de choses. Motivation à fond dans la caisse. Ok? Donc, tu as fini le Qur'an, tu fais quoi? L'eau. Tu commences à t'allonger sur ton côté droit, tu mets ta main en dessous de tes joues, comme le prophète ensemble faisait, et tu fais le doa. Allahumma qini azabak, yawma tab'atu abadak. Tu dis, bismika Allahumma amutu ahya. Et tu commences ton sommeil, et après, tu as préparé bien sûr l'intention de te réveiller le lendemain. Tu te réveilles le lendemain, c'est bon, je vais pas recontinuer le truc. Là, ça y est, là, on arrivait à Shawwal. C'est bon, donc chaque jour, c'est ça le train de vie que tu dois avoir. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم وأسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلم وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته